Sur Radio Prévert, nous sommes ravis d'être accueillis dans le bureau de Madame la maire de La Flèche et présidente de la communauté de communes du Pays Fléchois. Bonjour Nadine Grelet-Certenay.
Bonjour.
Une tradition qu'on a instaurée depuis quelques temps maintenant, de venir en début d'année dans votre bureau pour faire le bilan de l'année écoulée et puis aussi s'intéresser aux projets structurants de la nouvelle année. Nos meilleurs voeux à vous ainsi qu'au conseil municipal, au conseil communautaire, aux habitants du territoire.
Merci. Également, hein, effectivement, meilleurs vœux bien évidemment à toute l'équipe. Et puis, comme je le disais, aux vœux lors de notre cérémonie traditionnelle à Coppelia la semaine dernière, je réitère mes vœux à tous les Fléchois et habitants du pays Fléchois, bien sûr, notamment pour ceux qui, effectivement, n'ont pas pu venir et puis se déplacer. Et puis, je les invite également à aller voir les vœux sur le site de la ville que j'ai pu publier en début d'année également.
Des vœux, justement, dans lesquels vous avez mis l'accent sur la préservation de l'attractivité, de la qualité de vie de La Flèche et du pays fléchois. Pourquoi ?
C'est quelque chose que l'on répète hein, et que l'on martèle depuis le début du mandat, de toute façon, même si c'est une suite logique à tout ce qui a été fait auparavant. L'attractivité du territoire, c'est effectivement ce qui va faire que certaines personnes ont envie de venir, voire d'y rester, ont envie d'investir. Donc c'est... ce qui fait la différence, ou en tout cas ce qui fait l'honneur de cette zone du Sud-Sarthe, ce grand territoire et donc la deuxième ville du département, c'est bien une ville qui a maintenant acquis sa réputation d'être une ville dynamique, une ville où il fait bon vivre, et donc à nous tous, bien sûr l'équipe municipale et communautaire joue sur cette corde-là, à nous tous de faire en sorte que ça le continue et de le développer, bien sûr. L'attractivité, c'est le bien-vivre, je disais, donc le bien-vivre, c'est, et je le répète systématiquement aussi, c'est au travers de cette vie et de tous ces ciments que sont les associations, les activités sportives, culturelles, solidarité, etc., qui sont très importante sur le pays fléchois et sur la ville, bien sûr. Le bien-vivre, c'est tout ce que les services publics proposent pour nos jeunes, pour nos personnes âgées, pour nos familles, et je le disais, pour nos élèves, etc., pour toutes les personnes habitantes de notre collectivité, nos collectivités, au travers de tout ce qui est proposé. Le bien-vivre, c'est, on le disait également, l'environnement. C'est un axe fort de notre mandature, que ce soit à la ville ou à la communauté de communes. L'environnement, on le sait, est quelque chose qu'on ne peut absolument pas contourner. Si on veut vivre sereinement, en sécurité, du point de vue santé, bien sûr, parce qu'il s'agit d'une problématique de santé publique. Et puis, bien sûr, pour offrir à nos futures générations un monde, une terre, une zone où il fait bon vivre. Donc tout ça, ça s'anticipe, ça veut dire des lois, bien sûr, mais ça veut aussi dire des élus qui s'emparent et qui anticipent sur, justement, ces axes de travail. Alors, on a à la clé, bien évidemment, sur le plan environnemental, pas mal d'actions, hein, notamment en matière de biodiversité. On a pas mal d'actions TEN, Territoire Engagé pour la Nature, qui se sont mises en place sur le territoire, que ce soit la ville de La Flèche avec le Jardin de la Providence, les bois de Bouchevreau, etc., que ce soit auprès de nos autres communes qui, elles aussi, se sont emparées de ce label Territoire Engagé pour la Nature. Nous avons une équipe en interne qui travaille en lien avec l'équipe GEMAPI, hein, je le dis à chaque fois. GEMAPI, c'est la conservation des eaux. C'est remettre en place les cours d'eau de façon à avoir une eau plus pure, plus présente et donc préserver bien évidemment la faune et la flore. Donc ces axes de biodiversité, environnementaux sont fortement imprégnés, en tout cas dans nos équipes et dans nos services. Je pense notamment à la plantation des arbres qu'on a pu faire de façon importante un petit peu partout. Sur l'aspect économie d'énergie, énergie renouvelable. Là encore, les collectivités sont très investies puisque nous avons à la clé, après des études importantes qui ont été menées depuis le début du mandat, des projets d'ombrières, de photovoltaïque. Alors là encore, sur différentes communes de la collectivité, mais aussi de la communauté de communes, mais aussi sur la ville de La Flèche, sur les terrains de la Monnerie, sur le boulodrome, sur le parking du Petit Renard, etc., etc. Ce sont des projections qui vont être réalisées au fur et à mesure, hein, au fil du temps. Cette année, certaines devraient pouvoir démarrer. Et puis, bien sûr, un gros plan tout de même sur la photovoltaïque à Thorey-les-Pins. Puisque vous le savez, maintenant que notre déchetterie, notre belle déchetterie, ça a été le projet phare de 2023, maintenant que notre belle déchetterie est ouverte, qui offre énormément d'avantages et d'organisation, et donc qui sensibilise justement énormément au tri sur le territoire, les hectares qui étaient occupés sur Thorey-les-Pins se sont libérés. Et donc, bien sûr, à la clé, ce sont des ombrières, du photovoltaïque qui vont s'implanter à terme sur à Thorey. Donc, ce sont plutôt des grandes actions. Alors, derrière l'économie d'énergie, je le disais, c'est aussi l'isolation d'un certain nombre de bâtiments. Sur la ville, c'est les écoles. Pape Carpentier, Descartes et André Fertré. Sur la communauté de communes, c'est la maison de santé pluridisciplinaire qui va voir se poser quelques panneaux, ainsi que le pôle petite enfance. Donc on prend vraiment la mesure de ces changements et de notre préparation de ce changement climatique qui a des impacts forts en matière économique, en matière de coûts, puisqu'on le voit bien aussi dans un contexte où la collectivité et les particuliers sont particulièrement contraints sur le plan budgétaire. Donc il faut absolument accélérer cette grande métamorphose.
Et là, c'est dans la continuité de ce que vous disiez sur cette antenne il y a quelque temps par rapport à ce que induit la hausse des coûts de l'énergie, donc le fait de pouvoir déjà économiser et puis aussi de redéployer en termes d'énergie renouvelable, ça peut être une façon aussi d'amorcer ce virage-là.
Bien sûr, c'est à la fois travailler sur nos bâtiments pour ces économies d'énergie, mieux les isoler, etc., et puis capter effectivement l'énergie renouvelable. Et puis, c'est aussi offrir un modèle à tous, et puis par en particulier, alors justement pour les particuliers, dont on sait que très, très rapidement, il va y avoir des problématiques. On est dans une période où on nous annonce des coûts d'électricité qui vont grimper, des coûts énormes pour les collectivités, mais aussi pour les particuliers. Donc, on n'a plus maintenant cette aide de l'État, ce bouclier. Donc, je mets en alerte les particuliers sur leur consommation. C'est bien sûr quelque chose qui nous préoccupe beaucoup pour les foyers qui sont un peu plus précaires. On sait bien que ce ne sont pas ceux qui sont les mieux servis en termes d'isolation de bâtiments. Donc, qu'ils n'hésitent pas, bien évidemment, à revenir vers les collectivités, leurs collectivités, mais aussi vers des guichets tels que la Maison des Projets qui accueille dans le cadre des aides à l'isolation, des aides à la réduction des coûts énergétiques. Ça se trouve rue Grelier et donc il y a un interlocuteur qui vient de la PAP, qui vient du PTRE, là, de la du pays,
pays Vallée du Loir.
De la Vallée du Loir, qui vient effectivement faire des permanences, donc qui n'hésite pas à se renseigner. C'est sur les sites, hein, de toute façon, du PETR, du Pays de la Vallée du Loir, des collectivités qui viennent se renseigner. Ça reste bien sûr une préoccupation majeure.
À moins que ça m'ait échappé les autres années, mais dans les vœux que vous avez adressés aux habitants du territoire, sur YouTube notamment, vous avez placé ces vœux sous le signe du conseil municipal, du conseil communautaire et également du centre communal d'action sociale. C'est pour insister sur cet aspect.
C'est-à-dire que le centre communal d'action sociale est juridiquement une entité à part.
D'accord.
C'est-à-dire que dès lors que indépendante des deux autres collectivités, c'est-à-dire que dès lors que l'on prend des mesures de cet ordre-là, bien sûr, dès lors qu'on fait des appels à projets, quels qu'ils soient, en termes effectivement de renouvellement de contrat d'énergie, puisqu'on va être en cours là, les trois entités conventionnent pour pouvoir avoir des appels à projets plus intéressants, bien sûr, en matière de retour de nos fournisseurs d'énergie, notamment. Donc le CCS, parce qu'il a son propre budget indépendant, que la ville subventionne, mais le CCS a son propre budget, et donc lui aussi, bien sûr, cherche non seulement, s'empare de ces axes de travail importants pour nos populations un peu fragilisées, puisque c'est au premier chef le CCS qui, effectivement, est le guichet des personnes en difficulté, des personnes défavorisées, en lien avec les services sociaux, bien évidemment, du département, mais le CCS reçoit aussi beaucoup de demandes d'aide de la part des Fléchois, puisque les CCS sont, comme l'indique ce nom, c'est communal, c'est pas intercommunal. Donc chaque personne habitant du pays Fléchois doit aller voir auprès de sa mairie.
Merci pour cette précision, Nadine Grelet-Certenay. Oui. Émission spéciale avec Madame la maire de La Flèche et présidente de la communauté de communes du pays Fléchois. On a évoqué l'attractivité, l'environnement, le développement durable, l'économie d'énergie. Et en ce début d'année où on évoque une situation tendue, vous l'avez rappelé, hein, lors de la cérémonie des vœux, compte tenu du contexte géopolitique, est-ce que c'est aussi pour vous le lieu de vous dire, tiens, les services publics dans nos collectivités, c'est essentiel.
C'est un des points que l'on a développé aussi lors de notre cérémonie des vœux. Hein. Les services publics qui sont quelquefois mis à contribution, bien sûr, mais mis en difficulté. Et donc, simplement resensibiliser les personnes qui viennent chercher ce service public, hein, qui puissent entendre qu'on a quelquefois des personnes de nos services qui sont mis à mal en lien avec les incivilités qu'ils rencontrent et qui, hélas, sont de plus en plus nombreuses. Et donc, j'ai dû quelquefois reprendre les interlocuteurs en leur rappelant que nous avions des agents au service du service public, justement, que ce sont des agents qui sont très professionnels, très scrupuleux dans leur travail, qu'ils essaient de faire leur maximum à leur niveau et que nous avons la chance, justement, d'avoir ces services publics qui sont, on le voit depuis un certain nombre d'années, aussi mis en difficulté parce que des décisions sont prises où il faut réduire le nombre d'agents des services publics. Hein, je pense à tous les fonctionnaires de manière générale, mais on sait bien, les fonctionnaires hospitaliers et autres, hein, fonctionnaires de l'éducation nationale. Donc ces fonctionnaires et tous ces agents de la fonction publique sont très précieux pour le maintien de cette cohésion sociale. C'est un axe essentiel à notre République et à notre démocratie pour que justement tous les citoyens aient accès à tous leurs droits. Donc attention, c'est quelque chose qu'il faut absolument que l'on préserve. Au titre de la fonction publique et de nos services publics, on recrute très régulièrement des agents parce qu'on a un turnover en lien avec les parents en retraite. On a eu un petit turnover ces dernières années aussi en lien avec des agents qui, du fait de la baisse du pouvoir d'achat, se sont rapprochés de leur domicile pour avoir moins de frais de transport. Et puis on a des agents qui bougent de manière générale, dans un contexte où on le voit bien, les entreprises privées savent bien nous le rappeler aussi. On a un mouvement par rapport à l'emploi, de manière générale, qu'on n'avait pas il y a un certain nombre de décennies, c'est évident. Et ça touche aussi le service public. Donc on recrute très régulièrement, et donc attention à ne pas fragiliser un peu plus nos acteurs du service public.
Et en ce qui concerne donc l'économie, il y a également une carte à jouer pour le territoire. La Flèche initie des projets structurants en la matière. On sait que vous avez une tradition de travail avec Sablé, en l'occurrence, mm-hmm. pour développer des actions convergentes.
Ouais.
Est-ce que c'est un axe qui va se poursuivre également
pour... Territoire d'industrie. On a, en lien avec Sablé, dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, hein, puisqu'on est le binôme national effectivement qui avons été retenus pour pouvoir développer des axes là encore d'amélioration en termes d'attractivité, de développement et économique, vous l'avez dit. On a également des liens avec la communauté de communes du Pays Sabolien sur territoire de projet. Donc on a souhaité, c'est une continuité par rapport à des choses qui s'étaient instaurées déjà, des démarches de travail communes. Je pense au PSSL, je pense à cet axe de mobilité entre Sablé et La Flèche en lien avec ce PSSL, mais aussi le train, etc. Donc, et on a West Park sur le Bailleul, qui est une zone d'activité économique commune aux deux communautés de communes. Donc il y a déjà des habitudes de travail qui étaient instaurées préalablement et que l'on poursuit. Nous sommes une zone Sud-Sarthe entre Angers et Le Mans, entre Tours et Laval, qu'il nous a semblé important de développer, de faire connaître et d'amplifier sur l'aspect économique, c'est vrai. Donc je vous ai cité effectivement le travail déjà mis en commun. Et donc, bien sûr, qu'on va le poursuivre pour défendre tous ces axes-là que je vous ai donnés. Sur l'action cœur de ville, ça veut dire que nous avons des soutiens en termes de logistique et surtout des acteurs de soutien sur le plan financier. La Banque des Territoires, notamment, qui vient nous aider à monter un certain nombre de projets. Donc, la ville de Sablé a ses projets propres et la ville de La Flèche a les siens. Sur l'aspect plus pays économique sabolien, ce sont des zones d'activité économique que nous devons continuer à développer en lien avec la région. Donc c'est cette grande zone-là que l'on veut faire exister, que l'on veut faire briller pour pouvoir toujours contribuer à apporter de l'emploi, de la stabilité et bien sûr du développement, je le disais. Sur la ville de La Flèche et la communauté de communes, nous avons le gros projet qui est donc ce bâtiment blanc qui est fait pour venir implanter, elle a déjà commencé mais elle veut se développer, l'entreprise Noras qui est dans le luxe, hein, une entreprise de luxe qui effectivement à la clé pourrait aller jusqu'à recruter 250 voire 350 personnes sur le site. Donc c'est un enjeu majeur pour l'emploi sur la communauté de communes et sur la ville. Donc c'est un axe de développement fort. Les bâtiments blancs, je le répète à chaque fois, c'est quelque chose qui pour l'instant, jusqu'à présent, a été très bénéfique, qui est très apprécié par les porteurs de projets. Et donc là, un bâtiment blanc est en train de se monter sur la zone de la Bertraie. Et c'est quelque chose qui est que l'on poursuivra, bien sûr, au fil du temps. Alors, on a d'autres demandes, hein, quelquefois, si on pouvait monter 2-3 bâtiments blancs. Mais on a les budgets, comme je le disais, qui n'explosent pas, eux, de leur côté. On est dans un contexte, je le rappelle, où on a eu une forte poussée inflationniste à tous les niveaux, hein, en matière énergétique, mais aussi sur tous les matériaux, sur les chantiers, quels qu'ils soient. Le bâtiment en souffre, mais donc répercute bien sûr sur tous leurs projets, et les collectivités l'ont bien perçu. Donc c'est une période inflationniste en lien... conséquences directes, bien évidemment, des conflits mondiaux, internationaux, aux portes de l'Europe, pour certains, hélas. Terrible drame, hein, qui continue effectivement pour lequel on n'a rien réglé. Mais en tout cas, cette répercussion inflationniste nous touche de plein fouet, alors qu'il y a des besoins énormes sur nos zones comme celle du pays fléchois.
Et qu'est-ce que l'ancienne sénatrice a comme regard sur ces foyers de tension qui semblent se développer et qui se maintiennent encore et qui impactent, parce que finalement ce ne sont pas des sujets internationaux, ça devient local, puisqu'il y a des implications, des navires qui ne peuvent pas franchir le canal de Suez. On voit tout ce qu'il y a comme action portée par les marines américaines.
L'Europe, c'est l'importance de l'Europe. Pour moi, dans tout ça, l'Europe a un rôle clé à jouer pour venir faire de la médiation, essayer d'apaiser ces tensions, aider ces pays à trouver une solution où chacun puisse exister indépendamment. Bon, évidemment, en ce qui concerne l'Ukraine, on voit bien que il y a une invasion qui se met en place sur tous les pays. Maintenant, on entend même que la Crimée commence à réagir aussi, à mettre en place des soutiens forts à leur niveau. C'est hélas dramatique. Ces pays qui veulent envahir le monde, hein, puisque on en est là, c'est despotique, bien sûr, c'est humainement absolument insoutenable. Et comment est-ce que ces pays s'autorisent à imposer à des populations leur vision très autoritariste, et donc on a bien sûr une crainte, hein, par rapport à ce qui se dessine, notamment en Europe, sur les poussées extrémistes, extrême droite, etc., des alliances qui se font, qui ne sont que rejets de certaines populations, qui viennent exacerber les tensions, les conflits, et plutôt que trouver des solutions de vivre ensemble. Et sans être naïf, hein, bien évidemment, il ne s'agit pas de dire tout le monde est beau, mais il y a eu des souffrances passées, et je suis très inquiète par rapport à ce qui va se passer dans les années à venir, quand on voit cette non-capacité à ces dirigeants à trouver des solutions d'apaisement. À ne pas pouvoir partager leur monde, à ne pas pouvoir dialoguer. Et on a des populations en très grande souffrance derrière, qui ne comprennent pas, bien sûr. Donc, des crises humanitaires, j'ai bien peur qu'on en ait encore à venir. Et c'est là où je redis, attention, il faut que cette Europe soit forte, il faut qu'elle soit solidaire, et il faut qu'elle trouve des solutions pour aider ces pays-là. C'est un rôle très important, et je pense que l'Europe en est consciente, mais attention effectivement à nos positions, à chacun, c'est de nos responsabilités. Bien sûr, je pense aussi aux élections qui vont venir. Hein, 2024 est une année où il y aura énormément d'élections dans le monde. Je crois qu'il y a 74 scrutins internationaux en 2024. Donc j'appelle à chacun à sa responsabilité. Est-ce qu'on veut un monde en feu ou est-ce qu'on veut un monde apaisé? C'est un peu le message qu'on peut passer aujourd'hui.
Et justement, parlons de mobilisation qui pourrait aussi être en collusion avec cette actualité des élections. Vous avez vu le mouvement des agriculteurs à l'échelon européen. Ça, c'est un sujet aussi d'intérêt européen, voire mondial, parce que j'ai reçu le président de la FDSEA de la Sarthe qui disait que, en réponse à ma question, est-ce que vous voulez un moratoire ou un Big Bang ? Il dit bah oui, qu'il faudrait réfléchir à réformer tout le système.
Alors, je les comprends. Je les comprends, les agriculteurs. Ils sont effectivement dans cette injonction un peu paradoxale, hein, où à la fois ils ont pris, pour certains en tout cas, la mesure de ce changement climatique et des axes environnementaux dont ils devaient se saisir. Pas tous, hein, faut le reconnaître. Et en même temps, donc des normes, je ne sais pas s'il faut baisser les normes, en tout cas, il faut leur donner les moyens de vivre de leur travail. Ce sont des professions qui travaillent énormément, qui passent des heures absolument monumentales pour pouvoir avoir enfin à la fin du mois un salaire absolument dérisoire pour une majorité d'entre eux. Hein. Donc il y a tout ça à revoir. Je pense qu'il y a eu des choses qui ont été travaillées en amont. La loi Egalim a eu ce mérite quand même d'essayer de mettre en face des acteurs, des intermédiaires pour pouvoir tirer sur des prix, essayer d'articuler de façon un peu plus juste la rémunération de chacun. On l'a dit, il y a beaucoup de choses qui en sont restées en l'état. Il y a eu des changements aussi, bien sûr, de gouvernement et d'équipe gouvernementale. Donc, et puis même au niveau de l'Europe. Donc, il faut se ressaisir, aider les agriculteurs à continuer à travailler dans le sens de la préservation environnementale, mais il faut leur donner les moyens. Après, on ne peut que dire effectivement à la FNSEA, quelles propositions concrètes à un moment donné aussi ils attendent de l'Europe, de la PAC, des gouvernements, pour pouvoir mieux vivre et pour pouvoir garder cet axe qui, de toute façon, ne peut être maintenant, on le voit bien, au vu des énormes problèmes climatiques que l'on connaît et qui vont s'accélérer. Il était largement temps, hélas, hein, on voit bien qu'il y avait une urgence à s'emparer de ça. Donc maintenant, comment ces personnes-là peuvent vivre dignement, effectivement, de leur travail ? On ne peut que les soutenir dans cette demande.
Est-ce qu'ils vous ont demandé de les recevoir, les agriculteurs du canton de la Flèche ?
Ils ne m'ont pas sollicité à ce niveau-là. Ils nous ont fait part de leur démarche là, des panneaux retournés pour alerter la population. Et on avait d'ores et déjà bien sûr accepté en leur disant qu'on les soutenait dans leur demande. Hein, je viens de le dire. On leur a demandé de remettre maintenant les panneaux, mais ils savent que sur ce non-vivre, en tout cas, ce grand paradoxe et leurs grandes inquiétudes, bien sûr qu'il faut des réponses vite. Il y a de l'épuisement, puis il y a des accaparements de terres aussi. On se retrouve, et ça c'est quelque chose que moi, en tout cas, qui m'inquiétait depuis longtemps, on se retrouve avec des agriculteurs dans le cadre de reprises d'exploitation qui se retrouvent avec des centaines de milliers d'euros sur le dos, sur des emprunts qui sont...
qui ne sont pas soutenables.
Non, avec des terres qui sont de plus en plus importantes. Enfin, maintenant, on voit bien, on n'est plus sur des petites parcelles, on est sur des grandes parcelles. Alors, certains arrivent à effectivement tenir parce qu'ils sont multi-activités, mais à quel prix ? Au niveau énergie personnelle, au niveau travail, au niveau famille, à quel prix ? Donc, il y a des burn-out, bien sûr. Mais il y a aussi ceux qui veulent conserver, je dirais, ce que j'appelle l'agriculture paysanne, qui veulent garder les haies, qui veulent garder les arbres sur leurs terres, mais qui, eux, effectivement, sont aussi d'autant plus en difficulté. Donc, il faut regarder un peu partout, chacun dans sa dimension, mais surtout, effectivement, éviter peut-être ces grandes parcelles qui demandent des investissements énormes. Donc c'est aussi tout le monde de l'agriculture qui aussi doit essayer de préconiser des solutions à ce niveau-là. Bon, on en a parlé régulièrement à l'époque quand j'étais au département, même sénatrice avec le monde de l'agriculture. Hein, c'est ces intermédiaires avec qui il faut remettre la discussion en face, sans doute, à minima. Et puis comment l'Europe, la PAC, peut ressoutenir aussi ce monde agricole qui est en pleine débandade, qui ne savent plus où ils vont. Quoi. C'est terrible. Et qui travaillent en attendant. Et donc moi je me souviens des JA, des jeunes agriculteurs qui m'avaient dit à l'époque « nous on veut bien ne plus utiliser de phyto, mais on nous donne quoi à la place ?» Donc c'est comment on conçoit notre monde autrement et avec eux.
En tous les cas, sur Radio Prévert, on a noté que vous avez un intérêt, que vous semblez, c'est pas que vous semblez, que vous maîtrisez les enjeux de ce sujet-là. On vous sollicitera pour exprimer aussi votre point de vue, parce que c'est un sujet qui finalement est un sujet central. On ne peut pas continuer à faire l'impasse là-dessus et laisser les différents interlocuteurs qui s'en occupaient jusqu'ici s'en occuper entre eux. Parce que ça, finalement, c'est un sujet d'intérêt majeur à l'échelon européen, disiez-vous.
Voilà. Tout à fait.
Alors maintenant, on va revenir sur le territoire, même si on ne l'a jamais quitté, puisqu'il y a des agriculteurs sur le territoire. Donc,
Alors, on a nos conseillers départementaux qui sont en lien direct. Hein, je pense notamment aussi à Michèle Juguin-Laloyer chez nous, qui est la conseillère départementale présidente du COMIS, qui donc rencontre nos interlocuteurs de l'agriculture très régulièrement et qui passe les messages, bien sûr.
On l'interrogera également. On va former en pool, justement, pour voir comment, à la flèche, on réfléchit à ce sujet d'intérêt majeur pour nous tous, finalement.
D'accord.
Et un autre sujet d'intérêt majeur, également Nadine Grelet-Certenay, invitée spéciale de Radio Prévert, maire de La Flèche et présidente de la communauté de communes du Pays Fléchois. Notre santé, vous... Ah. Eh oui.
Eh oui.
Eh oui.
Un enjeu important.
Eh oui.
La santé, donc effectivement, on pourrait y passer des heures. Hein. La santé, donc c'est l'enjeu majeur de la population. Hein. Donc là aussi, encore un élément d'attractivité, hein, je le disais, sur notre territoire. C'est ça, notamment, qu'on travaille avec Sablé et le Pays Sabolien, hein, bien sûr. Et je le dis d'autant plus qu'en tant qu'ancienne présidente du conseil de surveillance, je connais un peu le sujet. Comme la convention le demandait, et dans le cadre de cette coopération des deux pays sur le conseil de surveillance du PSSL, qui impacte les deux zones, en milieu de mandat, c'est le maire de Sablé qui reprend la présidence. Je reste vice-présidente. On inverse les rôles maintenant. Okay. C'est quelque chose qui avait été convenu dès le départ. Donc, je reste au conseil de surveillance comme vice-présidente. La santé, je le disais, un enjeu majeur sur lequel on travaille. Dans un premier temps, effectivement, ce PSSL, dont on voit régulièrement des pages dans les médias, hein, qui vit, qui a eu des passages un peu difficiles, un peu compliqués. On réclame à nouveau des moyens, toujours, hein, auprès de l'État et donc de l'ARS, sur tout ce qu'il y a à mettre en place pour faire vivre ce PSSL. Un travail intéressant s'est mis en place entre le CHM, le Centre Hospitalier du Mans, qui est l'établissement support du groupement hospitalier départemental. Hein. Donc un travail intéressant de construction s'est mis en place entre les deux sites, de façon à préserver les capacités des uns et des autres, capacités qui sont en difficulté, puisqu'on le sait, au vu de la démographie médicale importante sur ce département, on a énormément de moyens et d'attractivité, en tout cas de communication à mettre en place pour attirer nos médecins, quels qu'ils soient, sur les hôpitaux, bien sûr. Donc il y a des services qui sont un peu en ligne de mire. On a le service des urgences qui reprend petit à petit, qui renaît un petit peu d'un moment un petit peu compliqué. On a retrouvé des professionnels de santé. Donc le service d'urgence, petit à petit, maintenant, peut ouvrir sur la journée, en semaine. On espère pouvoir réouvrir prochainement les week-ends et à terme, bien sûr, 24 heures sur 24. Le président du conseil médical de l'établissement, docteur Lelouch, y travaille de façon... il n'est pas passé nuit et jour, mais pas loin, en tout cas. C'est quelqu'un qui a su motiver les professionnels de santé. Donc, on a une belle dynamique qui reprend. D'ailleurs, on a des retours, il est vrai, des patients qui nous disent qu'ils sont bien, ils se sentent bien au PSSL, ils sont bien accueillis, ils ont des équipes professionnelles efficaces. Donc, c'est le service des urgences, c'est le service de pédiatrie aussi. On a recruté une nouvelle pédiatre encore là ces derniers temps. Merci encore au CME et à la direction. Hein. qui a travaillé depuis encore cette année, mais depuis de longue date, pour retrouver cette dynamique interne et ce dialogue interne aussi. On a des services qui communiquent bien, donc c'est plutôt intéressant. Donc la pédiatrie, qui là aussi va reprendre du flambeau. Je confirme et je réitère que sur la maternité, on a des difficultés à recruter, à trouver. Mais c'est beaucoup de gros hôpitaux qui sont dans cette même difficulté, hein, à recruter et avoir à la fois, pour réouvrir les accouchements, il faut à la fois un pédiatre, un gynécologue accoucheur, une sage-femme et puis un anesthésiste. Donc il suffit qu'il y en ait un des quatre qui manque et on ne peut pas. Donc plutôt effectivement que de rouvrir un week-end, une semaine, 15 jours et refermer, on travaille. Avec là encore avec le Mans et avec l'ARS sur comment réouvrir de façon pérenne un service de maternité qui est primordial sur notre territoire. On a à la clé une zone d'à peu près plus de 80 000 habitants et donc entre Angers et le Mans qui doit exister. On a un service et des sages-femmes qui sont très professionnelles là encore, qui ont des demandes de la part de nos femmes, futures mamans, qui veulent accoucher au PSSL, qui veulent rester dans leur territoire. Et donc, on travaille à ce niveau-là. C'est un établissement essentiel à notre territoire en matière d'accès aux soins pour tous. Donc je parlais du PSSL parce que je le connais un peu plus, je le connais bien. Sur les autres offres de santé, c'est bien sûr les maisons de santé pluridisciplinaires que le territoire communautaire a bien su développer, sauvegarder. On a une maison de santé à la Flèche qui est pleine. On travaille avec l'ARS sur un projet d'une deuxième maison de santé à réouvrir sur la Flèche. Pour ce faire, on a aussi mis en place donc ce fameux contrat local de santé qui est en pleine ébullition puisqu'on a un comité là, qui va se réunir très prochainement pour redéfinir les axes de travail qui ont pu émerger du diagnostic qui a été fait. Un questionnaire a été envoyé à toute la population. Et donc, de ce questionnaire ressortent quelques axes de travail qui vont être confirmés très, très vite, là. On pourra refaire un point là-dessus, d'ailleurs. Et donc, il s'agit, par le biais de ce CLS, de coordonner et d'animer tous les acteurs autour de ces axes de travail, autour de ces axes de santé, toujours pour améliorer l'offre de santé du territoire et trouver des réponses à ceux qui sont en difficulté en matière de transport, en matière de numérique, en matière d'accès, effectivement. Et puis, je pense notamment aussi à un axe qui, moi, me semble, et sur lequel j'alertais depuis un certain nombre d'années, c'était la santé mentale. La santé mentale, dont on sait qu'on n'a plus de psychiatres, ça devient quelque chose d'assez dramatique également et de très très inquiétant. Le Covid est passé par là, qui a été très 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 anxiogène pour beaucoup de personnes. On a une population qui a été fortement impactée, c'est national, hein, mais je le note aussi sur notre territoire. Et donc nos jeunes également, nos jeunes qui ont été très fortement... dans un contexte très anxiogène, hein, avec une perte de, une rupture de relation avec dans leur entourage, la grosse problématique des écrans. Quand je parle d'addiction, ça en fait partie. Alors, effectivement, je vais peut-être insister aussi parce que c'est quelque chose que je trouve très dramatique et dont on ne prend pas suffisamment conscience. L'écran pour le jeune enfant, chez le jeune enfant. Je revoyais encore ce reportage où ils essayaient un enfant de 3 ans. Les parents étaient totalement démunis, qui apprenait à parler et à retrouver de l'interaction avec les adultes et avec les personnes autour de lui. Il s'enfermait totalement, il ne savait pas parler, il ne savait plus... attention, je tire cette sonnette d'alarme, je sais que les professionnels sociaux, médicaux alertent là-dessus, mais on est en train de mettre en place des actions à la parentalité, notamment sur ce sujet-là, mais j'alerte à nouveau, attention pour la santé mentale de vos jeunes enfants. On va avoir des répercussions, des dommages qu'on pourra peut-être peut-être pas réparer à terme. Donc attention à cette utilisation d'écran. Un enfant avant 3 ans, il n'a pas à avoir un écran.
Donc on aura l'occasion de revenir sur ces sujets, notamment en lien avec le conseiller municipal délégué Jean-Pierre Guichon et puis ses équipes,
l'espace multimédia. Tout à fait. Mais il y a vraiment un sujet. Je suis très inquiète.
La santé, on l'a abordé pour le calendrier.
Alors le CLS, effectivement, MSP, ouais. Peut-être pour terminer, sur l'aspect santé, effectivement, on a donc, je le disais, des maisons pleines. Alors la Flèche, bien sûr, on y travaille. On fait des travaux d'aménagement dans les autres sites annexes. Je pense à Bazouges, on a fait quelques travaux d'aménagement pour le meilleur confort de nos professionnels de santé. Idem sur la Chapelle d'Aligné. Et puis, nous avons celle de Vilaine, où on a des professionnels de santé, je pense notamment à un médecin qui est venu là en tant que remplaçant dans un premier temps et qui veut s'installer. Il y a une équipe très dynamique là encore sur Vilaine, donc on est obligé d'agrandir, et tant mieux. Donc c'est le projet phare là aussi de 2024, un agrandissement, une extension, un aménagement de la maison de Vilaine. Et donc on va chercher tous nos financeurs pour pouvoir ouvrir cette belle maison de santé. Et donc on va aller sonner à la porte, bien évidemment, de tous nos acteurs, région, État, département, pour pouvoir soutenir l'installation des professionnels de santé dans la Sarthe.
Nadine Grelet-Certenay, il y a un autre sujet qu'on aimerait aborder avant de terminer par la démocratie participative, parce que je sais que c'est un sujet très important pour vous et que le temps file à grande vitesse à chaque fois. On a plein de sujets à aborder avec vous.
Ouais.
La mobilité, c'est essentiel quand vous parlez d'attractivité pour la deuxième ville de la Sarthe. C'est un sujet aussi structurant que les autres.
Alors, la mobilité, bien sûr, effectivement, vous parliez de M. Guichon, donc c'est notre référent. La mobilité, alors c'est un axe de travail, là encore, avec Sablé, pour le PSSL notamment, pour le train, etc. Donc, on a interpellé la région sur ce transport à la demande, c'est-à-dire un transport que l'on doit réserver à l'avance. Il faut là encore aller voir sur le site pour pouvoir déclencher le démarrage de cette navette qui va vers le PSSL. Puis qu'il faut aussi alimenter le PSSL. Donc, il y a la région a été interpellée à ce niveau-là. Nous avons, en lien avec Sablé, hein, je le disais, nous avons une plateforme Klaxit qui est soutenue par la communauté de communes sur sa mise en place. Donc, financièrement, on va y participer. Une plateforme de covoiturage sur le trajet du quotidien, en lien avec les entreprises qui nous ont fait là aussi remonter la difficulté de certains de leurs employés, de leurs salariés, à faire des économies sur le transport. Certains ont des problématiques de mobilité. Donc, cette plateforme doit contribuer à apporter des réponses de covoiturage, en matière de covoiturage, à ces personnes qui font ce petit trajet du quotidien. Nous avons bien sûr les mobilités douces, puisqu'on voit bien que dès lors qu'on ouvre des pistes cyclables, dès lors qu'on ouvre des voies vertes, ce sont des voies qui sont très empruntées, non seulement par les touristes, mais aussi par les familles, en termes de sport, mais aussi pour le transport du quotidien. On l'a vu avec Bazouges, La Flèche. Et donc, on a à la clé une voie verte Bazouges, La Suze, La Flèche, qui devrait être amorcée là en 2024, en lien avec le département. C'est un enjeu fort en matière économique, parce que touristique aussi. Et donc, nous espérons fort que cette voie verte vienne se connecter avec les autres voies Sud-Sarthe vers le Baugeois, vers le Lude, etc. En lien avec, c'est la V44 et la V47, je crois. C'est un schéma de mobilité douce et de vélo touristique. De vélotourisme sur la région, sur le département et notamment sur notre zone. Donc, cette voie verte, à terme, franchira le Loir sur la partie, donc à l'ouest donc de la ville, et donc ramènera une, là encore, une. un tourisme, un vélotourisme, le cyclotourisme effectivement, qui est un enjeu fort d'aménagement de territoire sur le Sud-Sarthe et sur la Sarthe de manière générale et sur la région, bien sûr. Donc nous, on joue aussi, on a notre rôle à jouer là-dessus.
Et on va terminer par la démocratie participative, hein, parce que c'est aussi un axe fort hein, sur lequel vous avez insisté lors de la campagne, où vous aviez dit que vous associeriez les habitants du territoire aux décisions, à certaines décisions qui sont prises, et en tous les cas, qu'il y aura une écoute. Ça a démarré avec le premier budget participatif, et... pour la suite, il y a eu un deuxième budget participatif également qui a été voté avec des actions qui font de sorte que les gens sont même sollicités pour qu'ils puissent venir. Je suis sûr que vous allez nous parler de ça, de ce vivier pour le territoire.
Alors effectivement, la démocratie participative, on l'a mise en place dès le début parce que bien sûr, il s'agit de non seulement répondre à la demande de nos concitoyens, mais qu'ils se sentent bien sûr concernés par tous les projets d'aménagement sur cette ville, quels qu'ils soient. C'est aussi, j'en suis sûre, j'en suis convaincue, les concitoyens ont des idées tous assez fabuleuses. Et ce que j'avais d'ailleurs noté, c'est que sur les projets qui émergeaient, participaient toujours au vivre ensemble et dans les quartiers. Et j'avais trouvé ça très très intéressant. C'est vraiment quelque chose qui s'est dégagé de façon très très forte. Alors bien sûr, après il y a des budgets derrière. Je vous le dis, de plus en plus contenu avec le contexte inflationniste, là. J'en sais quelque chose. Et donc, en tant que maire et présidente, il y a les budgets. Bien, alors, il s'agit de répondre au maximum avec des critères. On a réuni, on a constitué un comité de pilotage, de sélection où des concitoyens participent, donc bien sûr, siègent à ce comité de sélection des projets, à sélectionner les critères aussi. Donc, c'est plutôt intéressant de voir que ça fonctionne. La prochaine édition donc, va se lancer sur 2024. Notre adjointe référente à la citoyenneté et à la démocratie participative maintenant sera la première adjointe Karine Ménard. Donc elle pourra vous en dire un petit peu plus sur la projection 2024. C'est un enjeu important de citoyenneté, donc bien sûr, on y va. J'ai vu que le Conseil intercommunal jeunesse aussi a aussi des projets là-dessus. Ça aussi, c'est de la citoyenneté, donc c'est intéressant. Bien sûr, le Conseil municipal enfant est hyper présent, on l'a vu sur énormément de manifestations et est très convaincu aussi, très demandeur de plein de projets. Donc tant mieux, c'est plutôt un vivier qui vit bien. Et puis, on a mis en place, vous l'avez dit, cette réserve bénévole et citoyenne où on a nombre de personnes qui se sont inscrites sur ce site. On le dit, hein, des personnes, vous avez du temps libre, eh bien, donnez un coup de pouce ponctuel, selon vos disponibilités, aux associations qui en sont très en demande, très en besoin de bénévoles. C'est pas un engagement sur la durée, donc c'est aussi la particularité de cette plateforme, en tout cas sur ce site. Maintenant, il y a un travail qui va être de concertation avec les associations pour voir comment ils peuvent fonctionner maintenant avec ce potentiel. Les personnes se sont inscrites, maintenant, venez les chercher. Donc il faut que nous, qu'on puisse articuler ces bénévoles et ces demandeurs de bénévoles. Donc il y a tout ce travail qui va être mené là très très vite avec notre adjointe référente, Karine Ménage, avec notre directrice de cabinet aussi qui participe fort à cette citoyenneté et à cette participation citoyenne. Donc, qu'à cela ne tient. Effectivement, en route, on essaie de mettre en place des outils, en tout cas, pour que ça fonctionne. On avait trouvé que cette idée assez pertinente, et peut-être que c'est une boucle, hein, je le disais tout à l'heure, des personnes qui ont du mal à se projeter dans la durée, à tous les niveaux, et qui pourtant, ponctuellement, disent, moi, si je peux donner 2-3 heures par-ci, par-là, si ça peut contribuer, quitte à mettre en place des tables, quitte à passer un coup de fil à quelqu'un, il faut voir ce que ça peut donner. Et donc, qu'ils aillent vers les associations, c'était le support qu'on devait inventer.
Et pour tout à fait terminer, puisqu'on l'évoquait hors antenne, la culture, aussi un axe fort de votre action.
Toujours. C'est quelque chose... C'est quelque chose sur lequel on ne s'est pas plus étendu lors des vœux, hein, puisqu'on peut pas tout passer lors des vœux. J'avais pris des axes particuliers, hein, et donc bien sûr, la culture. Je le redis à chaque fois, c'est notre ADN. Pour moi, c'est un ciment social aussi. C'est un ciment d'émancipation. C'est un ciment qui fait que on s'ouvre à l'autre, on s'ouvre à la culture de l'autre, on s'ouvre à une meilleure connaissance de l'autre. Donc il y a forcément une meilleure entente, un meilleur vivre ensemble, une meilleure cohabitation avec des personnes différentes. Et donc bien sûr ça va dans les deux sens, hein, ces personnes différentes aussi. Donc mais en tout cas moi je suis convaincue que c'est une ouverture, la culture, et on le voit bien au travers de toutes les personnes qui s'engagent, notamment bénévolement. Sur toutes ces actions culturelles, c'est que du bonheur de les entendre, hein, parce que elles s'investissent énormément, elles arrivent à convaincre les personnes autour d'elles, et puis à mettre des choses en place qui font que tout le monde est concerné par cette ouverture aux autres. Donc ça y participe, bien sûr.
Ce sera le mot de la fin. Évidemment, on aura l'occasion tout au long de l'année de revenir de façon ponctuelle vers vous, Nadine Grelet-Certenay, maire de La Flèche et présidente de la communauté de communes du Pays Fléchois, sur des sujets d'intérêt tant locaux que nationaux et même internationaux, puisque vous l'avez dit, 2024, ça va être une année, allez, comment dire, charnière.
Ouais, attention, effectivement. Oui, une année charnière et... Il y a de gros enjeux derrière, donc effectivement, c'est une grande importance cette année électorale.
Et encore, on n'a pas parlé désinformation avec vous, je sais que c'est un sujet aussi qui vous intéresse, cette faculté qu'on a de s'informer à juste titre et ne pas céder à la désinformation.
Attention réseau, oh là là, attention réseau. Oui, on va avoir plusieurs sources d'informations surtout.
Allez, le débat, on l'ouvrira dans un autre moment parce que je sais que vous avez un autre rendez-vous derrière. On vous remercie infiniment pour cette tradition de début d'année que vous avez instaurée avec Radio Prévert. On vous remercie pour ce signe que vous nous accordez. Merci infiniment et on vous souhaite encore une très belle année, un bon cru 2024 malgré tous les dossiers qu'on a évoqués. Il y en aura d'autres également, mais on aura l'occasion d'y revenir. Merci encore une fois.
Très bien, merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt.